Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Josephine, I won't leave you waiting in between. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité. Mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de quatre petites filles qui ont la chance d'avoir deux mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 12 de la saison 4. Aujourd'hui, je vous propose un épisode dont la thématique est le donneur. Encore, me direz-vous. Oui, encore. Parce que je crois qu'il n'y aura pas assez d'une saison entière pour parler de ce choix essentiel qui se pose à nous. Et parfois on teste, on tente des parcours qui semblent nous correspondre, jusqu'à ce que la vie nous envoie un signe. Pour Estelle et Audrey, le signe était plus qu'évident, puisque le premier confinement a mis un gros coup de frein à leur parcours PMA en Espagne. Ce temps suspendu leur a permis de revoir leur projet, de se rappeler des points essentiels de leur réflexion au sujet du donneur, et de finalement se dire qu'elles préféraient le connaître et surtout qu'elles savaient qui serait le donneur de leur bébé. Fortes de cette certitude, elles y ont fait une demande, comme on la faisait en plein Covid, en visio. Il n'y avait que lui et il a dit oui, deux fois même. Mais Estelle et Audrey n'en sont pas restées là, puisqu'elles ont souhaité lui offrir un rôle important dans la vie de leur petite fille. Il est son parrain. Jusqu'à présent, je n'ai enregistré que très peu d'épisodes dont les familles ont des donneurs connus proches et parfois jouent un rôle dans la famille receveuse. C'était le cas de Barbara et Marie dans la saison 1. Si vous souhaitez aller écouter un autre épisode témoignant de cette possibilité. Souvent, le fait de connaître le donneur et d'arriver à lui trouver une place qui restera la sienne sans concession sont des composantes trop impactantes pour que l'on franchisse le cap de cette configuration. Ces deux témoignages devraient vous rassurer là-dessus. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Estelle, bonjour Audrey.
Bonjour Constance, bonjour.
Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet enregistrement qu'on a calé suite à votre enregistrement pour, à votre participation aux rencontres de la Saint-Valentin. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter, vous représenter ?
Alors, moi c'est Audrey, je suis mariée avec Estelle, on a toutes les deux 30 ans et on est les mamans d'une petite Rose, qui a 2 mois et demi.
Petite Rose qui est avec vous, petit chou.
Oui.
Donc c'est on ça. Risque de l'entendre sur l'enregistrement, c'est oui, normal, toi. C'est un podcast sur la parentalité, les enfants sont les bienvenus.
Et nous sommes aussi les mamans de 4 poilus,
wow.
De chats et de chiens.
4 pattes. Donc de 16 pattes.
C'est ça, on est 7 à la maison.
Ah, 7 in heaven.
Il faut lancer le jingle. Là.
Voilà, exactement. Mais je ne l'ai pas. Mais on l'entend bien dans notre tête. Super. Super, 2 chats, 2 chiens. Ils s'entendent bien ?
Ah oui, très bien.
Bon, impeccable, impeccable. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour parler de votre accès à la parentalité, accès qui... Enfin, vous avez fait un choix qui est, je pense quand même, pas mal envisagé. Je dis pas que c'est forcément un choix qui est abouti à chaque fois, mais il est pas mal envisagé dans la réflexion. Vous avez choisi un donneur connu, qui est connu de vous dans votre quotidien, pour devenir le donneur. Donc seulement le donneur et le parrain, si je ne me trompe pas, de Rose.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre rencontre, et je pense que nos auditeurs pourront aller l'écouter en détail dans l'enregistrement de la Saint-Valentin. Donc, me rappeler votre rencontre et me raconter votre réflexion chacune autour de la parentalité, de l'accès à la parentalité.
Alors, on s'est rencontrés sur un groupe Facebook de discussion qui s'appelait les Amis de Jeanne Magazine, du coup, lié au magazine justement sur la culture lesbienne, Jeanne Magazine. Mmh. Et on a décidé avec d'autres filles du même département de faire une rencontre. Du coup, on était toutes les 8. Mmh. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrées. Et à ce moment-là, Estelle, elle avait une copine qui était aussi présente d'ailleurs à la première soirée. Puis on a bien sympathisé et on s'est revus du coup avec les autres membres aussi. On a fait plusieurs soirées ensemble. On a appris à se connaître.
Voilà. Et il y a eu un déclic qui s'est produit en fait quand on est allé une journée à Saint-Étienne. En fait, moi j'avais proposé qu'on aille au cinéma parce qu'il y avait le film Embrasse-moi de Océan qui sortait au cinéma, mais il sortait pas dans notre ville, donc on devait aller à Saint-Étienne pour le voir forcément, si on voulait le voir. Donc j'avais proposé à celle qui voulait d'y aller ensemble, ça pouvait être sympa. Mmh. Et seulement Audrey qui avait répondu qu'elle était disponible, les autres n'étaient pas disponibles. Donc on est parti à Saint-Étienne, Audrey, mon ex et moi.
Donc à trois.
Et donc on a été au cinéma et en fait, moi elle me plaisait déjà un petit peu, mais quand j'ai entendu son rire au cinéma, je suis vraiment tombée sous le charme. Mmh. Et je crois que toi, ça s'est passé dans la voiture où tu t'es vraiment dit que...
Oui, que tu me plaisais, quoi. Voilà. Qu'on avait encore plus d'atomes crochus que je le pensais. Et que...
Ce même jour, du coup ?
Oui.
Oui, le même jour, ouais.
Ah, c'est marrant, hein. C'est fou quand ça se passe comme ça.
Ouais. Bah, et puis c'est vrai qu'après le cinéma, on a été faire un peu de shopping dans le centre commercial. Et ouais, je me suis vraiment surprise à beaucoup la regarder. Donc, Un peu de temps après, moi, je me suis séparée du coup de ma copine, parce que déjà ça allait pas très bien entre nous, hein. Si je commençais à regarder quelqu'un d'autre, c'est que aussi j'étais pas bien dans mon couple,
hein. Oui, en général c'est ça.
Voilà, donc on s'est séparés en juillet, et en fait Audrey était pas là pendant tout l'été, donc on s'est revus seulement à la fin du mois d'août et pendant tout le mois de septembre.
Et au mois de septembre on s'est vus plusieurs fois, et plusieurs fois... Je crois, parce que moi, j'avais pas vraiment compris qu'elle avait tenté des approches de me dire « Ah oh, oui, je peux te raccompagner. Ah oui, ça dit d'aller au cinéma, etc. » Enfin, qu'à chaque fois, j'étais contente de la voir, mais j'avais pas encore réalisé que je lui plaisais aussi.
Ouais.
Et il y a eu un vrai...
Déclic.
Oui. Quand on s'est vu chez moi pour une soirée film... Et voilà, à la fin, tu es partie sans à peine en me disant au revoir, mais de loin, même pas de bise. Et tu es partie comme ça, et puis je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là ? Ça n'a pas dû bien marcher, en fait, finalement. J'ai dû me faire un cinéma. Et finalement, elle m'avait envoyé un message le lendemain en me disant que je lui plaisais beaucoup. Et j'ai répondu quelques heures plus tard, parce que je ne l'avais pas vu le message.
Le stress.
Qu'elle aussi me plaisait, et notre histoire a commencé du coup la semaine d'après, pour notre premier rendez-vous.
D'accord.
Et il faut savoir aussi que je suis professeure dans le collège, dans le collège et dans le lycée où elle a été élève. Voilà.
Non, ça c'est drôle, ça c'est drôle. C'est
très drôle, oui.
Et du coup, mes collègues étaient au courant qu'on était ensemble. Enfin.
Oui, du coup, ils connaissaient Estelle et ils connaissaient Audrey, quoi.
C'est ça.
Bah, et puis en plus,
pas des mêmes périodes.
Pour le premier rendez-vous, on s'était donné rendez-vous en fait sur le parking à la sortie du lycée. Elle est arrivée avec mon ancienne prof d'espagnol. Salut.
ah oui. Oh là là, le malaise.
C'était un peu ça.
Ah bah oui, c'est clair. Et alors, est-ce que chacune de votre côté, vous aviez réfléchi à la parentalité, à l'accès à la parentalité avant de vous rencontrer? Est-ce que c'était une évidence ou est-ce que c'est vous, de vous être rencontrés qui a levé ça?
Alors, moi, j'ai toujours voulu des enfants, aussi bon que je me souvienne. Enfin, quand j'étais adolescente, je voulais une famille nombreuse même. Après, je suis vite revenue sur ce choix quand même. Et quand j'étais avec mon ex-copine, on y avait aussi réfléchi, on avait même commencé des démarches. J'avais fait même des analyses, on avait contacté une clinique en Espagne. Et puis, j'ai réalisé que je n'étais pas encore prête à ce moment-là, surtout pas prête avec elle.
Oui, voilà.
Et donc, quand on s'est séparés, moi, j'avais toujours envie d'avoir des enfants. Et donc, quand avec Estelle, on s'est mis ensemble, ben, moi, pour moi, c'était une évidence.
Et tu en avais parlé avec Estelle ?
Et on en a parlé, mais elle n'était pas très chaude au début.
Donc, du coup, Estelle, est-ce que toi, tu y avais réfléchi avant ?
Alors, moi, c'est pareil. Je m'étais toujours vue avoir des enfants un jour. Sans jamais faire aucune démarche, enfin, j'ai jamais été avec quelqu'un avant Audrey qui m'a donné envie de me dire bah ça y est, c'est le moment, je vais avoir un enfant. C'est, pour moi, c'était plus loin, c'était je pensais, mais dans un futur pas très proche, on va dire.
D'accord.
Et donc en fait, quand on s'est rencontrés avec Audrey, donc j'étais avec mon ex, et donc on s'est séparés, et je me suis assez vite remise avec Audrey parce que c'était une évidence. Mais c'est vrai que à la base, je m'étais dit que j'aurais aussi aimé prendre un temps pour moi parce que cette relation d'avant m'avait quand même beaucoup éprouvée et j'avais besoin de me retrouver en fait. Et c'est pour ça qu'au début de notre relation, moi, j'ai aussi un peu mis les freins
parce que
elle, ça faisait un moment qu'elle n'avait pas eu de relation, donc elle était prête à re-rentrer dans tout ça. Moi, pas du tout. Et c'est vrai qu'au début, elle voulait qu'on emménage ensemble assez vite. Moi, je n'étais pas prête. Et pareil pour les enfants, en fait. Elle m'en a parlé aussi assez vite. Et j'ai tempéré. J'ai dit oui, moi aussi, je veux des enfants, mais juste pas tout de suite.
Voilà.
Et donc, j'ai réussi à la faire patienter en prenant un chien.
D'où les quatre poilus.
Bah, là, on n'en a eu qu'un. En premier, on a eu Clark, déjà. Voilà. Mais en fait, j'ai vite compris que pour elle... Enfin, elle me l'a dit, en fait, que c'était pour elle un besoin presque viscéral et qu'elle ne se sentait pas bien, en fait, de pas avoir d'enfant.
D'accord.
Et donc, là, j'ai compris que c'était vraiment important pour elle. Et puis, de toute façon, je me disais que c'était la femme de ma vie. Donc,
ouais, tu avais cette certitude-là.
Voilà, et que j'avais envie d'avoir un enfant avec elle. Donc j'ai dit, bah vas-y, allez, on se lance.
Allez, fou.
J'ai pas eu besoin de le dire deux fois.
Tu m'étonnes, et quand t'es dans l'attente, que tu sais que tu veux des enfants, que tu sais que t'es avec la bonne personne, waouh, chapeau quand t'arrives à faire patienter. Hein.
Bah, c'était dur. Hein.
Ouais, tu m'étonnes.
T'es fait patienter combien? Oh, je t'ai pas fait patienter.
On a commencé les démarches un an plus tard, je crois.
Ouais. Après, il y avait plusieurs étapes. Je lui ai dit, bah, d'abord, on va se marier. Voilà. Donc, déjà, il y a eu le mariage. Elle a vachement organisé le mariage. Donc, ça lui faisait penser à autre chose.
Non, pas vraiment. Non, pas vraiment.
Et alors, qu'est-ce que vous aviez mûri comme réflexion autour de l'accès à la parentalité? Est-ce que vous aviez déjà des idées de ce que vous vouliez et de ce que vous ne vouliez pas?
On voulait pouvoir... choisir quelques caractéristiques, on va dire, avoir une idée de, sans parler de politique d'eugénisme, mais de savoir à quoi pourrait ressembler notre enfant, quoi. Je me suis renseignée, du coup, sur Krios, grâce à une autre, d'ailleurs, une fille que j'avais rencontrée sur Insta, qui d'ailleurs a aussi enregistré un podcast. C'est comme ça que j'ai connu le podcast Les enfants vont bien.
Ah, c'est marrant. Ah oui, d'accord.
Et qui
Aurélia Oreshamaé, c'est ça?
Exactement.
Oui, d'accord.
Et qui m'avait parlé de Krios. Alors, j'avais commencé déjà à regarder, même quelques mois avant que tu sois d'accord. Mais juste pour vraiment me familiariser avec la plateforme et comment ça fonctionne. Et puis, un jour de juillet, de juillet 2019, je crois, je me connecte parce que là, t'étais d'accord.
Je vais donner le feu vert.
Exactement.
Le go.
Trois mois avant le mariage. Et moi, donc je me connecte et je commence à regarder. Et là, je m'aperçois que que Krios ne livre plus aux particuliers.
Oui, tout à fait.
Ils avaient changé le système à cause de
la loi. Je crois que c'était une obligation. Oui, il y a une loi qui est passée.
Et là, je me suis littéralement effondrée, en fait.
Je me suis dit, mais oui, ça a changé le projet, en fait, c'est ça?
Ah ben, complètement. Puis ça allait repousser en plus parce qu'il fallait. Je savais que je me disais, il va falloir faire d'autres démarches, donc ça va prendre encore plus de temps.
Oui.
Mais j'ai vite retrouvé une autre solution et je me suis renseignée sur l'Autriche.
L'Autriche?
Oui, l'Autriche, parce que je suis professeure d'allemand. Donc,
D'accord. Je voyais pas. L'Autriche, c'est pas le pays de première intention, donc.
non, effectivement, je pense qu'il y en a très peu et très peu en plus de personnes étrangères. Je pense qu'il y a surtout des Autrichiennes qui.
Parce que du coup, l'accès à la PMA est ouvert en Autriche, c'est ça, à toutes les femmes?
Alors, aux femmes en couple, avec pas les femmes célibataires.
Pas les femmes
seules. Donc, ça a changé depuis.
D'accord.
Parce qu'ils nous demandaient d'ailleurs notre acte de Pax, et puis, etc., parce qu'on n'était pas encore mariés. On allait se marier quelques semaines après.
D'accord.
Donc, on s'est renseigné. J'ai eu un appel au téléphone, puis une visio. Donc, ça commençait à se...
Concrétiser quand même.
À se concrétiser, exactement. Mais c'était pas très clair au niveau des démarches à faire. Et puis, on recevait les ordonnances par la poste. Donc ça
par la poste
Oui, par la poste.
Mais attends, mais on était en quelle année? 1812
2019. Les ordonnances de vitamines par la poste. Okay. Et puis, moi, je me dis. Et justement, ils ne voulaient pas faire avec stimulation.
D'accord.
Et je me disais, mais quand même, on fait beaucoup de kilomètres. Si on n'est même pas sûr du jour auquel ça se passe, si le jour est le bon,
ouais.
On met un peu toute notre vie entre parenthèses pour ça, et notre argent. Et,
oui.
Et je me disais, mais si ça ne marche pas, juste parce qu'on s'est trompé de fenêtre.
Il ne déclenchait même pas l'ovulation?
Bah non.
D'accord, vraiment sur cycle.
On a eu la protection du coup.
Donc, d'accord, ok.
On n'a pas eu autant de détails.
D'accord.
Et puis surtout... Lors d'une visio, on a découvert qu'il fallait que Estelle signe un papier chez le notaire, mais elle ne parle pas allemand. Donc je me disais, mais ça n'a aucune légitimité juridique de faire signer un document chez un notaire alors qu'elle ne comprend pas ce qu'elle est en train de signer, en fait.
Oui, ils appliquent vraiment le protocole allemand, enfin autrichien en l'occurrence, le protocole autrichien à tous, quoi.
Oui,
interne au pays comme externe au pays. D'accord.
C'est ça.
Oui. Et c'est la reconnaissance, je suppose.
C'est fait, ça, exactement. Ouais. Et là, je me suis dit, non, mais c'est trop compliqué. Et j'avais déjà fait un comparatif avec l'Espagne aussi. Et c'était plus ou moins pareil, sauf que c'était plus simple, quand même. Mm-hmm. Mais j'avais fait, du coup, entre-temps, quand même, avec l'Autriche, puisque j'avais eu des demandes d'examen, d'échographie, etc. J'avais tout fait. Et donc, je crois qu'on a laissé tomber l'Autriche, je pense, en octobre 2019. Oui. Et en novembre, j'avais déjà contacté l'Espagne, en fait, une clinique en Espagne, Girex à Gérone.
D'accord.
Et on a pu faire le premier essai, du coup, début décembre.
Ah oui, donc, en fait, vous avez commencé votre parcours par un parcours PMA en Espagne.
Enfin, oui. Du coup, en fait.
En Espagne, oui.
C'est ça, exactement. Notre premier essai, du coup, c'était en décembre 2019.
D'accord.
Ça n'a pas marché. Et on a refait un deuxième essai au mois de février, mais au final, on n'a même pas fait d'essai parce que je réagissais même plus au traitement. Donc, on a laissé tomber. Et le mois d'après, on a refait un essai en Espagne. Du coup, on a pu faire une deuxième insémination en mars, début mars 2020.
D'accord, ah oui.
Juste avant le...
Derrière. Ouais, voilà.
À l'époque où il y avait la grosse grippe.
C'est ça.
Celle-là même. Celle
en Espagne,
paralysé...
il se...
Ils ne s'inquiétaient pas.
Ils ne s'inquiétaient pas vraiment encore à la
Mais nous non plus, on ne s'inquiétait pas. Personne ne s'inquiétait à ce moment-là. Mais par contre, du coup, si vous êtes passé en Espagne, ça veut dire que vous avez renoncé à connaître des caractéristiques du donneur. Parce qu'en Espagne, le donneur, il est complètement anonyme.
Tout à fait. Et moi, personnellement, ça me chagrinait beaucoup, en fait.
Oui.
Plus je me posais la question, plus je me disais, mais j'aimerais bien quand même peut-être avoir plus d'informations que juste sa couleur des cheveux et son groupe sanguin. Ce qu'on avait justement à... En Espagne.
Mmh, bien sûr.
Et le confinement est arrivé et on a pris le temps justement de la réflexion, de savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment. Est-ce qu'on veut recommencer en Espagne une troisième fois, puisqu'on savait que ça allait être possible quand les frontières pourraient ouvrir.
Oui. Ça vous a permis d'avoir un temps de réflexion en fait, ce confinement.
C'est ça. Il nous avait dit qu'il nous recontacterait, quand ce serait possible. D'ailleurs, pour la petite histoire, ils nous ont jamais envoyé le message.
C'est vrai.
Donc,
c'est toujours pas possible.
Ça fait 2 ans que c'est fermé.
Et nous, on a beaucoup réfléchi ensemble, du coup, à qu'est-ce qu'on veut vraiment pour notre enfant. Est-ce qu'on n'a pas envie de savoir, justement, avoir des informations plus précises, voir quelqu'un de notre entourage, en fait. Parce qu'on a des amis qui ont fait ça aussi, avec un donneur connu, justement.
Ah oui, donc vous aviez un background, en fait.
Oui, moi, je connaissais déjà plusieurs personnes qui avaient eu un bébé, justement, avec un donneur connu.
D'accord, ok.
Et du coup, on a demandé, on a réfléchi justement
Le choix s'est vite imposé au final. Enfin, pour nous en tout cas.
Oui, le choix s'est vite imposé quand même.
On savait pas s'il serait d'accord.
On savait pas s'il serait d'accord, mais on a quand même, on s'est mis d'accord sur la personne.
Ah oui, mais c'est fort parce que je comprends hein, que tu vois que tu réfléchisses tout ça, mais. T'imagines si tu prends une porte,
la personne. Oui, on y a pensé aussi, bien sûr. Hein.
Ouais.
Non, mais c'est très chelou comme conversation de se dire alors qui est-ce qu'on pourrait, à qui on pourrait demander en fait, et comment on peut demander ça en fait.
C'est ça surtout. À qui, comment est-ce qu'on allait pouvoir formuler
une telle demande, ouais.
Et donc un jour, on a fait un Skype justement avec mon meilleur ami et son conjoint, qui eux d'ailleurs ont eu un bébé aussi.
Ils étaient en parcours aussi à ce moment-là.
En parcours GPA, mais ça n'avait pas encore abouti.
D'accord.
Et ben, on a osé formuler la question. Et il a eu besoin.
Oui, puis alors eux, pour le coup, ils étaient sensibilisés à ça, au don,
à la fin. C'est ce qu'on disait aussi, c'est qu'ils comprenaient tout à fait notre détresse à ce moment-là et notre
envie aussi.
Ouais, notre envie, notre démarche. Enfin. Quand on leur a posé la question, ils ont compris qu'on leur pose la question.
Oui.
Oui, d'ailleurs, son conjoint a compris avant mon ami, en fait.
Il savait où tu voulais en venir.
C'est voilà. Ça. Il a compris avant, lui. Mais parce qu'il l'avait déjà fait avec une de ses amies, je crois. Il avait déjà
Et vous saviez ça, qu'il avait déjà fait ça?
Alors non, on ne le savait pas.
Mais d'accord, ça n'avait pas fonctionné, par contre.
Ça n'avait pas fonctionné, effectivement.
D'accord, ok.
Et donc, mon ami a eu besoin d'un peu de temps de réflexion.
Oui, ce qui est normal.
Ce qui est normal, hein, on lui a dit, mais tu peux tout à fait dire non, ça ne changera rien à notre amitié. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Hein. Et il a accepté. Il nous a envoyé un message quelques jours plus tard, je crois, en disant qu'il était d'accord et qu'on pouvait se recontacter justement pour les démarches précises, comment on allait faire.
Et qu'est-ce que vous lui avez dit à ce moment-là, par rapport à son rôle? Demander à quelqu'un qu'on connaît de devenir le géniteur de son enfant, ça peut vouloir dire que tu proposes une coparentalité ou juste un don avec ou sans un rôle précis dans la vie de l'enfant.
Nous, on a été assez clair dès le début là-dessus. Déjà, quand on lui a demandé, on lui a dit voilà, nous, on envisage ça, c'est vraiment un don de ta part. Bien sûr que tu es notre ami, donc évidemment que tu auras une place dans la vie de cet enfant, mais ça sera certainement pas la place de père. Voilà. Dès le début, on s'était dit qu'on dirait au bébé, quand le moment serait venu, qui est son donneur, puisqu'on le sait, donc autant le dire. Et puis, on veut pas que ça devienne un secret de famille ou ce genre de choses. Mais par contre, voilà, nous, fallait que ce soit très clair pour tout le monde. Qu'en aucun cas, ça serait son enfant, quoi.
Oui, bien sûr.
Et il était parfaitement d'accord avec ça. Lui aussi voyait ça comme ça, en fait.
Est-ce que lui, il a émis des conditions?
Non, je crois pas.
Non.
C'était un oui sans concession.
Oui.
Non, il était surtout... je pense qu'on était tous un peu stressés de savoir comment on allait faire, comment tout ça allait s'organiser, mais... Ouais, il y avait un peu de stress de partout, mais tout le monde était plutôt partant, quoi. Même son conjoint, ça lui posait aucun problème.
Mais tu m'étonnes qu'il y avait du stress si en plus eux ils étaient en parcours de GPA. Tout devait pas se mélanger parce que c'était deux projets très précis, très distincts. Ouais. Mais quand même,
il y a eu beaucoup d'émotions.
Ouais, c'est ça. Et puis je me dis que un parcours de GPA, c'est toujours super long. Et il y avait possibilité que vous soyez maman avant que lui, il accède à la parentalité de son côté.
Et oui, bien sûr.
C'était C'était une possibilité, ça.
Et bien, finalement...
Et finalement, non.
Finalement, ça ne s'est pas vérifié.
Quatre mois après, ils nous ont coiffé au poteau.
Ils nous ont coiffé au poteau. Ouais, mais en même temps, du coup, vous vivez... Enfin, c'est marrant parce que l'histoire est pour le coup très similaire. Enfin, c'est une histoire parallèle. Ouais, quoi.
Puis l'histoire est belle parce qu'au final, elle finit bien pour les deux couples. Donc, c'est super.
Ouais.
Oui, absolument. Et puis, on en avait discuté aussi avec eux. De la possibilité de, si un jour la loi change, de pouvoir nous aussi leur rendre l'appareil. Enfin,
oui, bah oui, d'accord. Ok, donc du coup, vous avez
envisagé... Moi, c'est quelque chose que j'envisage totalement de... Pour,
potentiellement pour, porter l'enfant de quelqu'un.
Mm. Ah bah oui, c'est tout à fait quelque chose que j'envisage de faire. Enfin, que j'envisagerais si c'était possible, en tout cas.
Mm-hmm. D'accord. Et ça, c'est... Je trouve que c'est admirable, mais en même temps... Je pense que moi aussi, tu vois, j'aurais été capable de le faire. Il aurait fallu que ça... Enfin, ça m'aurait demandé pas mal de réflexion. Je dis « aurait » parce que... Enfin, je parle au passé parce que maintenant, j'ai 40 ans. Donc, autant me dire que je pense que c'est un peu fini pour moi, tout ça. Mm-hmm. Mais ouais, c'est quelque chose qui me paraît assez évident de pouvoir porter pour quelqu'un. Bon, c'est propre à chacun.
Oui.
Et alors, oui, donc, riche en émotions, cette annonce. Comment vous avez réagi quand il vous a dit oui ?
Oh là là, mais on était tellement heureuses, mais on a pleuré, je crois.
Ouais, les larmes en premier.
Ouais, mais tu m'étonnes. Ouais.
Parce que moi, en plus, comme il avait demandé un temps de réflexion et que je l'avais pas senti chaud en fait en visio, je l'avais vraiment senti sur la retenue et moi, j'avais vraiment vraiment peur qu'on se prenne une porte, quoi. Et là, je me disais en fait que c'était un peu notre dernière chance parce que à ce moment-là, on pouvait plus aller en Espagne. Enfin, et je me disais mais comment je vais faire pour... Enfin, parce que Audrey, je savais que si c'était pas bon, elle allait s'écrouler, en fait.
Ouais.
Et que je me disais, mais comment je vais faire pour la soutenir ? Elle va pas aller bien et tout. Enfin, j'avais vraiment peur. Ouais.
Surtout et vous aviez personne en backup ?
Bah non, surtout, voilà, c'est ça. C'est moi, c'était une évidence que c'était lui, en fait. Mm-hmm. C'était pas parce qu'on se connaissait déjà tellement bien. On était quand même... On est très proches. C'était mon témoin de mariage.
Ouais.
Puis il a des bonnes caractéristiques génétiques.
Il cochait toutes les cases, cet homme-là.
C'est ça, exactement.
Bon, en tout cas, la vie est ainsi faite que parfois, tout fonctionne, tout roule, tout s'enchaîne ou s'enclenche comme il faut, quoi. C'est magique. Et donc, tu sais, j'ai percuté quand tu as dit en visio, que vous y aviez demandé en visio, je n'avais pas capté au départ. Mais c'est vrai que c'était encore pendant le confinement, donc ça crée encore une distance. Tu vois, ce n'est pas comme si tu te fais un apéro entre potes et que... Ouais. Et que, enfin voilà, là c'est, ça formalise différemment en fait.
C'est ça.
Et du coup, vous avez, alors parce que tu me disais que vous me disiez que vous étiez stressée à savoir comment tout commence à se mettre en place. Qu'est-ce que vous avez fait comme choix par rapport à ça ?
Eh ben, on a fait le premier essai en juin. Donc, Audrey déjà faisait des tests d'ovulation avant. Mmh. Et en fait, eux, ils habitent donc sur Paris. Et on s'était dit que nous, on monterait sur Paris dès que le test d'ovulation nous disait que c'était bon, en gros. Mm-hmm. Et donc, eux nous accueillaient chez eux. Nous, on avait proposé aussi de faire ça dans un hôtel s'ils n'étaient pas à l'aise. On était prêtes à prendre un hôtel pour faire ça. Ils nous ont dit non, venez à la maison, ça sera plus sympa. Enfin, voilà. Et on avait aussi... acheter en pharmacie un petit pot pour recueillir le sperme du coup et puis on nous avait dit pour l'insémination nos copines qui l'avaient fait avec une pipette de Doliprane.
Oui.
Finalement, on a découvert que la pipette d'Advil c'était mieux.
Mais oui, mais j'ai découvert ça il y a pas longtemps. Il paraît que c'est mieux.
Voilà.
La pipette, elle est plus longue, c'est pour ça, mieux. Non.
Donc on a acheté des litres d'Advil pour
pour avoir plusieurs pipettes.
Pour avoir plusieurs pipettes, voilà. Donc, on a stérilisé tout ça. On était prêtes à partir, en fait, dès que c'était bon.
Et à ce moment-là, en plus, on avait acheté la maison. Et c'était plus ou moins... le test était positif 2 jours avant d'emménager.
D'accord. Donc, en fait, ça a fonctionné sur le premier essai ?
Ah, pas du tout.
Non, pas du tout.
Ah oui, non, d'accord. Okay. Ah non, le test d'ovulation.
Le test d'ovulation, oui. D'ovulation.
Pardon, j'y étais pas.
Ouais. Non, en fait, comme il y avait le déménagement, on est parti plus tôt sans avoir le test positif d'ovulation. Mm-hmm. Et en fait, on l'a fait trop tôt, quoi. Enfin, clairement, ça pouvait pas marcher.
Oui. Oui, si, voilà. Si le test d'ovulation n'était pas positif.
Mais on va dire que ça nous a permis de faire quand même un coup d'essai tous ensemble de voir comment ça se passait, parce que quand on est arrivé là-bas, on dit bon, alors comment on fait, toi t'en as pour combien de temps, moi ça va aller très vite, d'accord. Donc tu toques à la porte, moi je récupère le petit pot, ok,
on fait le transfert, voilà.
Enfin, donc ça nous a permis aussi de nous organiser et
de se détendre,
voilà,
aussi.
De prendre tout ça à la rigolade. Et donc le mois d'après, on a refait un essai et là ça a fonctionné, mais
j'ai fait une fausse couche.
Ah, dur.
Mais dès le début, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui allait pas, en fait. J'avais mal sur un côté et je me disais c'est quand même pas normal. Et donc j'ai fait un test sanguin et justement qui était positif, mais le taux de bêta-ACG était très bas. Mmh. Et j'ai compris qu'il y avait un problème. Mmh. Donc j'ai quand même consulté un docteur le lendemain, et qui me disait non, mais ça peut... c'est possible que ça vienne plus tard, qu'en fait, que vous ayez mal calculé la date d'ovulation et que, tout simplement, l'embryon soit... Soit plus jeune que vous pensiez. J'étais là, ah mais ça, c'est pas possible.
Non, nous, on sait.
Et le lendemain ou le surlendemain, j'ai eu très mal dans la nuit et j'ai compris que, comme une grosse douleur de règles, parce que c'était encore le début, et j'ai compris que c'était fini, hein, que j'avais fait une fausse couche.
Oui, d'accord. Ouais.
Donc, là, il a
et là, fallu... ça va, ça. Enfin, je suppose que le coup de massue, il est quand même.
Ah oui,
il a fallu gérer ça. On a eu besoin d'un temps aussi de pause pour gérer ça, parce que c'était très difficile. Mm-hmm. C'est vrai qu'en même temps, autour de nous, on avait aussi beaucoup de gens qui tombaient enceintes.
Ouais, il y avait des bébés partout.
Ouais, on voyait des bébés partout un peu à ce moment-là.
Oui, c'était dur. C'était encore, c'était pas le moment le plus dur.
C'était pas le pire.
Ouais.
Et. Ouais, ça a été dur là, à ce moment-là. Enfin, l'été là, c'était vraiment compliqué. L'été et la rentrée. Et je crois qu'on a refait un essai au mois d'octobre. Du coup, ouais. On a eu besoin justement de quelques temps de pause. De toute façon, notre ami n'était pas forcément disponible et nous non plus, en plus. Ni physiquement, ni mentalement. Et on a recommencé en octobre. Ça n'a toujours pas marché. En décembre, toujours pas marché. Et là, je commençais à me réfléchir, en me disant peut-être qu'on devrait se renseigner pour une FIV, parce que ça fait quand même 6 essais. Peut-être qu'il y a un problème. Et j'avais recontacté la clinique espagnole, justement, pour avoir au moins les analyses à faire, la liste des analyses à faire et le prix d'une FIV.
Mmh. Et là, ils étaient ouverts.
Eh ben oui.
Parce qu'ils ne vous avaient pas envoyé.
Ils
vous
ont très vite. Hein.
Voilà, ils n'ont pas envoyé, mais ouais, ok. Mais,
très vite.
Ouais, et tu te faisais suivre pendant, au niveau gynéco, je veux dire, ou au niveau ovulation, hormis par les tests d'ovulation, par des professionnels de santé?
Pas depuis l'Espagne, je n'avais pas recontacté ma gynécologue depuis les inséminations en Espagne.
D'accord.
Mais je l'ai recontactée à ce moment-là, et elle avait accepté de nous donner un restant de produits pour stimuler l'ovulation. Enfin, non, d'accord. Pas l'ovulation, pour stimuler
La production de vos sites.
Production d'ovocytes. De façon tout à fait illégale.
Oui.
Et donc, on savait qu'on avait ça dans le frigo. Alors, elle nous l'avait passé, mais en nous disant que ce ne serait pas pour l'essai suivant, parce qu'elle ne serait pas disponible pour nous faire les échographies, parce qu'elle partait en vacances. Donc, elle nous avait dit, ce sera pour mars, parce que février, ce sera pas possible pour moi. Et c'est dangereux, hein, du coup, de pas être...
Oui, suivi pour ça.
Suivi. Et du coup, en février, on s'était dit, du coup, on essaie février, mars. Puis si jamais ça marche pas, justement, on se renseigne sérieusement pour la FIV. Et ça a marché en février.
le cycle de l'espoir, entre guillemets.
C'est ça, avant, exactement. Ouais. Et cette fois, c'était notre amie qui était venue chez nous.
D'accord.
Ça a peut-être joué, je ne sais pas. Ouais. Il est venu passer quelques jours parce que lui, il était en télétravail en plus. Puis, on habite à la campagne, donc c'est sympa aussi d'avoir un peu de verdure.
Oui, bien sûr.
Et on a passé un bon moment. Et du coup, ça a marché cette fois-là.
Et là, ça a tenu.
Oui, et là, ça a tenu, exactement.
Wow.
Et ça a tenu, mais il y a eu des débuts quand même très compliqués parce que à nouveau, j'avais des pertes de sang comme la fois d'avant, comme avant la fausse couche. Et le taux de bêta-ACG était aussi très bas.
Ah.
Et donc là, je me suis dit, ah oui, il y a peut-être un problème encore une fois. Mais cette fois, j'avais pas mal. Donc, je suis allée contacter mon médecin traitant qui n'était pas là, parce qu'il n'était plus médecin traitant depuis une semaine.
Ah, oui, d'accord.
Et j'avais eu une remplaçante et sa collègue qui m'avait dit « Mais madame, vous êtes en train de faire une deuxième fausse couche. »
Avant même, sans t'avoir vu.
Eh bien, si, en m'ayant vu, en ayant juste lu les résultats d'analyse et en sachant que j'avais perdu du sang.
D'accord, ok.
Non, je suis dit, ah, d'accord. Ah, donc, ouais. Encore une fois, en fait.
Ouais.
Et là, on a passé vraiment une soirée horrible. Ouais. Mm-hmm. En pensant que, ben, encore une fois, ça allait se reproduire. Qu'est-ce qu'on allait pouvoir faire c'est pas normal, une deuxième fausse couche. Enfin, on disait quand même, ça fait beaucoup.
Ouais.
Et le lendemain, je suis retournée faire des analyses de sang. Et j'ouvre le PDF en catimini, sans te le dire. Et là, le taux avait triplé.
Ah.
Et du coup, je me suis dit, mais...
Je fais pas de fausse couche, quoi.
Mais non, moi, j'ai cru. J'ai envoyé un message au labo, vous êtes sûr? Vous n'avez pas fait d'erreur? Parce que il n'y a pas un chiffre en trop.
Oui.
Ils ne m'ont pas répondu. Et j'ai fini par te le dire tellement j'étais bouleversée par cette nouvelle, du coup. Mm-hmm. Et on a décidé de contacter les urgences gynéco.
Oui.
Et qui nous ont dit justement de venir en fait pour une échographie, pour vérifier que le sac était bien là, etc.
Et donc tout était bon.
Et que tout était bon. Et en fait, c'était pas encore sûr. Et donc on a dû y aller tous les deux jours pendant plus d'une semaine pour vérifier que justement jusqu'à ce qu'on voit le petit rond avec le point. Et que c'était officiellement bon. Ouais. Et ça a duré plus de 8 jours quand même.
Ah, c'était très frustrant parce que moi, je devais rester dans le couloir avec le Covid à chaque fois. Puis j'étais de nuit cette semaine-là, donc je dormais très peu. Et c'était vraiment... Enfin, moi, je me souviens de cette période comme... c'était horrible, quoi, d'attendre dans le couloir, de se dire, elle va sortir en pleurant, mais est-ce que ce sera des larmes de joie ou de tristesse? Enfin, c'est...
Oui, bien sûr.
Vraiment dur, quoi.
Ouais, je comprends.
Et puis, j'avais... un jour, on a vu, du coup, hein, au bout de 8 jours, on a vu la poche avec le petit embryon. Mais je me suis dit, je vais pas lui dire tout de suite, quand même. Je vais lui faire croire qu'il faut revenir dans 2 jours. Pour pouvoir lui faire une mini-surprise, entre guillemets. Je trouvais ça très frustrant dans ce... Donc ce projet en commun, c'est que je ne pouvais pas faire de petite annonce ou de,
oui, c'est
ou de surprise, on va dire. Donc j'ai gardé ça pour moi, même si en fait, j'ai découvert que tu avais eu un doute quand même. Pourtant,
j'ai joué le jeu en fait. Je me suis dit, elle a vraiment envie de me faire une annonce, donc je vais lui faire croire que je la crois en fait. Sauf que j'ai vu sur son visage que c'était bon.
Tu as dû lire le soulagement.
Ouais. Mais je me suis dit, je vais lui laisser son petit moment de plaisir.
C'est ça, exactement. Et du coup, j'avais mis un petit t-shirt Le Roi Lion sur son oreiller. Et puis, on allait se poser pour un après-midi film. Et je lui avais dit, on va te chercher un oreiller. On va se caler un peu bien sur le canapé. Et puis, du coup, elle est allée chercher son oreiller. Et elle a vu.
Et alors?
Et j'ai joué la surprise. Heureusement, je fais du théâtre, donc ça va, je l'ai fait bien.
Ça va, ça s'est bien passé.
Mais oui, bah, j'étais super heureuse dans tous les cas. Mais...
Bah oui, tu m'étonnes. Et vous avez prévenu votre ami, du coup, que ça avait fonctionné?
Ah oui, tout de suite, oui.
Il devait être trop content.
Il était très content aussi.
Ouais, tu m'étonnes.
Bah, surtout que lui, il nous l'avait annoncé en janvier que c'était bon pour lui.
Oui, le mois de janvier, on a eu, comme ça, je me souviens, 3 annonces.
La même semaine.
Ah, la même semaine.
Ouais. Ah oui.
Qui était enceinte. Et j'avoue que la troisième, j'ai un peu fait une crise de panique à ce moment-là. Je me suis dit, mais c'est... À la fois, j'étais très contente pour ces personnes, je veux dire, il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais c'était quand même très frustrant.
Puis c'est pour ça que je m'étais renseignée, je pense, pour la FIV aussi. C'est parce que, vraiment, il y avait beaucoup de gens autour de nous qui avaient leur enfant. Et puis, bah, nous, ça traînait toujours, quoi. Et c'est vrai que dans notre couple, ça avait toujours été évident que c'était toi qui allais porter le bébé aussi. Et moi, je commençais presque à me dire, je vais peut-être tenter le coup, quoi. Mais en même temps, je savais que ça serait dur pour Audrey si ça marchait pour moi et pas pour elle. Donc,
c'est pas facile. Hein.
Le mois de janvier, c'était pas facile.
Oui, pas facile du tout, ça.
Ouais, clairement. Clairement. Et depuis, donc, vos bébés, à tous les deux, sont nés, du coup.
Oui.
Et est-ce qu'il a rencontré votre bébé, votre fille?
Oh, oui.
Eh bien oui, oui. Ben, d'abord, on a rencontré le leur, du coup.
Oui, évidemment.
Parce qu'il est né en fin juillet, et du coup, on s'est vu en août. Parce que sa famille, en plus, habite pas très loin de chez nous. Donc, on est allé chez sa maman, et on a rencontré leur fils. Mm-hmm. Oui, parce que du coup, les garçons ont eu un garçon et les filles ont une fille.
On respecte la parité, s'il vous plaît.
Nous, on était aussi très heureuses d'avoir une fille. Et de justement pouvoir dire, bah oui, on est toujours autant de filles à la maison.
Il y a beaucoup de gens qui nous appellent tout le temps, en fait, les filles. Et donc, on était contentes de pouvoir rester les filles.
Je comprends. Je ne peux pas te dire le contraire. Je suis un peu concernée par cette famille de filles.
Exactement.
Et donc, du coup, vous avez rencontré son petit.
Ouais. Oui, et puis, j'étais enceinte à ce moment-là.
Ouais, lui, déjà, il a dû te voir enceinte. Ça a dû lui... Bon, il t'avait déjà vu, mais là, ça devait vraiment bien se voir.
Oui, bah oui, c'était 3 mois avant la naissance de Rose, je crois. Mais il n'avait pas encore vraiment complètement réalisé.
Non.
Et il essayait justement, il nous l'a dit après ça, de mettre un peu de distance quand même. Enfin, pas vraiment de distance, je veux dire, on parlait toujours autant, etc. Mais lui, je pense qu'il avait besoin d'un moment de se mettre un peu à l'écart de
ne pas trop s'impliquer dans la grossesse, en fait.
Voilà, c'est ça, exactement. Je lui donnais des nouvelles, mais il n'en demandait pas trop non plus.
D'accord.
Et après, quand elle est née, on a fait un Skype aussi.
Oui, on a fait un Skype à la maternité.
Où là, il a bien réalisé.
Là, c'était beaucoup plus concret.
Ouais, et c'est ça. C'est vrai qu'en plus, bah, Bichette, il était fatigué à ce moment-là et ouais, il a eu
ah bah oui, forcément.
D'émotion, on va dire.
C'est ça.
Ouais.
Exactement.
Tu m'étonnes. Et depuis, comment ça se passe entre vous ?
Ah bah, super,
oh bah oui, super bien.
Ouais. Ouais. Bah, on s'est vus à Noël, du coup, tous les 6. Et bah, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est une grande famille, en fait.
Ouais, une famille élargie, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est que, en fait, nos parcours ont tellement été compliqués, on s'est vraiment beaucoup rapprochés. Parce qu'à la base, vous deux, vous étiez amis, mais nous, les conjoints, ben, on se connaissait comme ça, quoi, voilà. Et ça a vraiment créé un noyau où, moi, je les considère vraiment comme ma famille, quoi. Et leur fils, si un jour il a besoin de conseils d'une femme ou quoi, j'espère qu'il pourra se tourner vers nous, et j'espère que Rose pourra se tourner vers eux, si elle a besoin de parler à un homme aussi. Enfin, voilà. C'est pour ça qu'on a décidé de le mettre parrain aussi.
Et est-ce que vous avez prévu de parler à Rose, ou est-ce que vous lui en avez peut-être déjà parlé, mais de dire à Rose que donc votre amie est son donneur?
Alors oui, on va le lui dire, mais on ne l'a pas encore fait, non. Pour l'instant,
bon, en même temps, la 2 mois et demi.
On l'a pas dit.
Voilà, pour l'instant,
d'accord.
C'est
oui, voilà, il a un petit nom, c'est le parrain. Voilà.
C'est ça. Mais on lui a pas encore dit, mais on le lui dira en temps voulu, hein, et même petite, hein, je veux dire, si elle pose des questions, il n'y aura pas de souci pour...
Dès qu'elle sera capable de comprendre, qu'elle posera des questions, on lui dira très clairement que c'est son donneur.
C'est chouette, hein. Franchement, quand on a quelqu'un comme ça en qui on a toute confiance et qu'on a envie de faire rentrer dans notre vie de façon un peu plus intime, j'ai envie de dire, et que cette personne répond par la positive, c'est... Oui. Tout s'est aligné, quoi. Même si ça a mis du temps, même si ça a été compliqué, que vous êtes passé par un parcours relativement difficile, faut admettre. Oui. Enfin, aujourd'hui, vous avez l'air d'être hyper épanouie avec votre petite poulette et avec globalement votre famille élargie, quoi.
Ah, c'est ça.
Exactement.
Ouais. Mais c'est vrai que moi, j'allais dire, quand on disait aux gens qu'on faisait ça avec un ami, moi, je me rappelle, mes parents, ils étaient là, mais vous avez pas peur qu'ensuite, ils reconnaissent l'enfant ou quoi. Et en fait,
bah oui, c'est vrai.
C'est une question qui est légitime, mais parce que eux, ils sont pas dans notre histoire, en fait. Et moi, je les ai vachement rassurés. Je leur ai dit, mais vous pouvez pas vous rendre compte de ce qu'on vit, en fait. Lui, c'est très bien. Enfin, il vit la même chose avec parce qu'ils ont eu une mère porteuse, donc il comprend très bien la limite, la frontière entre entre tout ça. Donc et maintenant ils voient bien avec la naissance de Rose que tout est clair et qu'il y a pas de souci, qu'il va pas venir réclamer Rose en aucun cas, quoi.
Oui, vous êtes très assurée par rapport à ça et tout est très clair. C'est vrai que je comprends la crainte, hein, de tes parents, parce que moi je sais que c'est une des craintes que j'avais si j'étais passée par un donneur connu, enfin si on était passé par un donneur connu. Mais clairement, personne n'est dans votre relation, donc on peut pas savoir. Enfin, tu vois, on peut pas imaginer quel est votre lien de confiance, j'entends.
Mm-hmm. On nous a fait le plus beau cadeau, clairement.
Ah, mais c'est clair, c'est clair. C'est le plus beau cadeau. Et est-ce que vous aviez, en discutant au départ, envisagé, je ne sais pas si c'est votre projet et si ça ne l'est pas, c'est très bien aussi, hein, mais de concevoir une fratrie avec lui ou pas du tout?
Alors, pendant la grossesse, on s'est posé la question. Et puis, en fait, c'est même lui qui a formulé, quand on s'est rencontrés au mois d'août, quand on a rencontré leur fils, qui nous a dit, mais moi, je suis OP pour recommencer.
Ah, trop bien.
Et du coup, nous, on y a fortement réfléchi aussi pendant justement les derniers mois de la grossesse, qu'on avait très envie d'avoir un deuxième enfant. Enfin, on s'était déjà dit qu'on en voudrait deux. Mm-hmm. Et donc, on savait que ce serait possible, on va dire. Même si on n'a pas encore officiellement demandé à notre donneur, justement, de recommencer.
Oui, bon, après, Rose, elle a 2 mois et demi. Hein. Oui, c'est normal.
Mais il n'empêche que on y réfléchit déjà pour cette année. on verra comment ça se passera, mais j'ai encore envie d'être enceinte. Mais
ce que je comprends complètement. En tout cas, voilà, tu sais, oui, vous savez, vous savez, oui, voilà, faut que chacune, enfin que toutes les deux vous soyez en accord, mais en tout cas, vous savez que le jour où vous avez besoin d'actionner, vous savez vers qui vous tournez, vous savez que c'est acté, c'est fait, et vous pouvez vivre ça sereinement.
C'est ça, exactement. Ce qui est aussi presque un soulagement aussi, de se dire.
Ben oui, bien sûr.
Qui sera d'accord, quoi.
Bien sûr, bien sûr. En tout cas, c'est une très jolie histoire, vraiment. Je trouve que c'est. Enfin, toutes les histoires sont belles, hein, toutes les histoires sont admirables, mais c'est vrai que là, il y a un petit soupçon de magie, tu vois, dans votre histoire, dans le fait que vous êtes liés à deux familles et que vous avez eu chacun votre enfant en même temps, quasiment. Hein. Donc, c'est vraiment. Enfin, je sais pas, il y a un petit truc qui. Ouf, voilà. Enfin, moi, je suis pleine de bonnes ondes, là. De good vibes, pardon.
Un grand merci à notre ami.
Oui, c'est clair, un grand merci à votre ami. Et je pense que vous ne lui serez pas redevable, mais en tout cas, à vie, vous avez ce lien qui va vous unir. Et puis, je te remercie beaucoup, je vous remercie toutes les deux beaucoup de bien avoir voulu témoigner autour de de votre parcours, parce que je pense que, comme je le disais tout à l'heure, vous n'êtes pas les seuls à avoir envisagé ça, mais souvent, le pas, il ne se passe pas. Parce que on hésite à demander, on hésite sur la personne, on hésite sur la confiance aussi qu'on accorde à cette personne. C'est pas facile, mais là, je crois que vous nous avez donné envie de passer le cap.
J'espère que ça pourra être utile à d'autres personnes.
Oh, je pense. Et je renverrai si jamais ça ne te dérange pas, je renverrai les auditeurs qui le souhaitent vers ton compte.
Oui.
Pour pouvoir répondre aux questions qui se posent. Et puis, je te remercie encore une fois beaucoup. Je vous remercie encore une fois beaucoup. Et puis, je vous dis à très bientôt.
À très bientôt, Constance.
Les fêtes approchent à grands pas et ce témoignage apporte sa dose de feel good. Celui de la semaine prochaine sera encore plus aligné avec cette période de don de soi. Vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, je vous proposerai de redécouvrir 2 épisodes marquants du podcast. Celui de Barbara et Marie, dont j'ai parlé dans l'introduction, et celui d'Aurélia et Charlotte, qui complétera celui de cette saison. Dans la newsletter du podcast, je dois vous parler d'une autre newsletter, celle du collectif Famille. Jusqu'à présent, nous envoyons une newsletter par mois par email, comme tout le monde, et nous avons fort à parier qu'elle encombrait vos boîtes mail et que vous n'aviez pas toujours le temps de les ouvrir et de les lire. Alors on a eu une idée. Pourquoi ne pas rendre le format plus ludique et surtout plus facile à consommer? Sur place ou à emporter? Vous me suivez? Nous avons donc la joie de vous annoncer la naissance de la chaîne de podcast du collectif qui s'intitule tout simplement Collectif Famille, dans laquelle vous pourrez retrouver pour le moment les newsletters en format audio et ensuite l'idée sera de convertir en audio un maximum de contenu dans les mois à venir pour les rendre accessibles au plus grand nombre. La première newsletter est d'ores et déjà en ligne sur toutes les plateformes de podcast. Vous nous direz ce que vous en pensez? Enfin, vous me demandez souvent comment soutenir le podcast. Le meilleur moyen est de lui donner plus de visibilité, partage sur les réseaux sociaux, notation sur les plateformes d'écoute, bouche à oreille, et je sais qu'il fonctionne bien. Vous pouvez notamment partager le compte Instagram du podcast, @lesenfantsvontbienpodcast. En gros, faites du bruit, plus vous en ferez, plus ma reconnaissance sera grande. Merci, merci, merci pour votre soutien.
Et maintenant que vous avez la pêche, je vous souhaite une excellente semaine. Alone.